RCF.
L'omniprésence des écrans représente désormais un véritable danger pour les enfants. Et c'est un danger aussi pour les moins jeunes. Une étude canadienne montre que des enfants de 2 ans passeraient en moyenne 2,4 heures par jour devant un écran. À 3 ans, ce temps passerait à 3,6 heures par jour. C'est considérable. Les risques induits sont nombreux, on le sait. Obésité, capacité cognitive moins élevée, notamment dans le développement du langage et de la lecture, mauvais contrôle des émissions, difficulté d'attention. Voilà qui plaide, si besoin était, en faveur du livre, en faveur de la lecture, dont l'éloge n'est plus à faire. Certes, l'éloge n'est plus à faire, mais cette lecture et cette littérature sont désormais rudement concurrencées, à la fois par les tablettes, par les smartphones et autres jeux vidéo. La question des outils numériques est désormais devenue un problème social que ne résoudra pas la seule dénonciation. Il faut véritablement que chacun, les utilisateurs, puisse trouver une autre issue pour la distraction, pour le divertissement. Une autre issue que celle de l'explosion d'images qui se succède à un rythme effréné et qui donne un plaisir immédiat et permanent, certes, mais si fugace. Sans être passéiste ni naïvement nostalgique, c'est peut-être en redonnant le plaisir de rêver, d'imaginer, de rêver, d'être informé aussi, que l'on pourra redonner à la lecture, à la littérature, la place qu'elle mérite auprès du jeune public. Nous n'en sommes plus, certes, à l'époque du Club des Cinq, ni même à celle du Clan des Sept, que les moins jeunes de nos auditeurs ont bien connu. La littérature jeunesse est désormais créative, originale, florissante et belle à regarder aussi. J'ai sur mon bureau, à l'instant où je vous parle, 5 ouvrages colorés, vivants, joyeux, 5 petits ouvrages dont je cite les titres au hasard. Le cinéma, le parc de la Tête d'Or, Guignol, la fête des Lumières, Jacques Prévert, Antoine de Saint-Exupéry. Et avec moi, pour parler de ces 6 ouvrages, j'ai dit 5 mais ils sont au nombre de 6, il y a Cécile Mathias et il y a Isabelle Arca. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Cécile Mathias, je commence par vous pour inverser l'ordre alphabétique. Vous êtes celle qui écrit les textes. Isabelle Arca, vous êtes celle qui les illustre. Vous publiez ces textes, ces 6 ouvrages aux éditions du Maupassant. Vous êtes donc des passeuses, Cécile.
On essaye de faire passer notre passion pour les livres, je pense aussi. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup lu de livres à mes enfants quand ils étaient petits. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit en préambule, je pense que vraiment le partage de la lecture avec ses enfants est un moment très important dans l'échange parent-enfant. Et que de faire écouter un livre audio, par exemple, à un enfant qu'on va laisser seul n'a pas du tout la même portée. Donc, c'est vrai que le livre est très important et l'objet, déjà, vous parliez de du côté
esthétique,
coloré de ces livres. C'est vrai que l'objet en lui-même, de pouvoir tourner les pages, je pense que donner le goût aussi du livre à des enfants très jeunes peut permettre peut-être ensuite qu'ils aient une continuité dans le goût de la lecture.
Et vous, Isabelle, vous êtes donc l'illustratrice. Comment concevez-vous cette transmission, ce passage par le biais du dessin, de la couleur, qui sont vos spécialités ?
Oui, ben, moi aussi, je trouve que lire avec les enfants, c'est un moment privilégié et un peu magique. Et donc, pour faire passer un peu ce moment magique, les couleurs sont importantes, les personnages sont importants, les petits détails sont importants. Dans mes illustrations, j'essaie toujours de trouver le petit truc un peu rigolo, le dessin qui va attirer, qui va capter l'attention de l'enfant, du lecteur. Voilà.
Donc, un travail en complémentarité, mais l'une et l'autre, me semble-t-il, vous soulignez, l'une par le dessin, par l'illustration, par la couleur, l'autre par les textes, ce moment originel où l'enfant découvre la lecture. Alors, non pas la lecture que l'on entend par le biais de tel ou tel appareil qui débite des histoires, mais véritablement la lecture partagée avec l'enfant.
Oui, c'est très important et ça permet aussi aux parents d'expliquer, de revenir peut-être sur des choses. On a conçu ces livres pour les 6-10 ans à peu près, enfin, ou peut-être un peu plus, même 5-10 ans. Donc l'idée, c'était effectivement que la lecture puisse être accompagnée. D'autant que ce sont des documentaires, ça raconte donc l'histoire de la collection s'appelle Raconte-moi ton histoire,
Oui.
et donc ça raconte l'histoire soit d'une personne, soit d'un lieu, soit d'une fête. Donc l'idée c'est aussi d'apprendre des choses et que le parent, enfin ou l'adulte qui fasse la lecture puisse compléter peut-être aussi ce qui a été écrit, expliquer des mots peut-être un peu compliqués, puisque c'est vrai quand on a une tranche d'âge comme ça un peu large. Ben on utilise des termes qui peut-être pour les plus petits seront un petit peu complexes, mais voilà, c'est le rôle justement là du parent de pouvoir expliquer ces termes et d'enrichir le vocabulaire par là même.
Et vous, Isabelle, comment concevez-vous le rôle, la fonction de l'illustration par rapport au texte?
Alors moi, en tout cas, dans ce projet-là de livre avec Cécile, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de synthétiser une idée et de faire en sorte que ce ne soit pas redondant avec le texte. Donc, ce que j'ai essayé, c'est de raconter autre chose, peut-être, qu'on ne perçoit pas dans le texte.
Oui.
Et ce que je disais tout à l'heure, trouver le petit supplément, le petit truc un peu rigolo qui va vraiment intéresser et captiver ou capter l'attention du lecteur. Voilà.
L'image n'est donc pas redondante par rapport au texte.
Alors, elle illustre, bien sûr,
Oui.
elle illustre le texte, hein. On n'est pas hors sujet,
Oui,
évidemment,
bien sûr.
mais elle l'illustre d'une autre façon. J'essaye de, par mes illustrations, d'apporter autre chose, le petit détail qui n'a pas été dit et qui est en creux. Voilà, donc moi j'essaye de le mettre un peu en avant.
Comme un
Voilà.
répond, si on utilise une métaphore musicale, en quelque sorte.
Voilà, et peut-être que le lecteur, en lisant le texte, se pose encore d'autres questions, et peut-être que l'illustration peut apporter cette réponse. Voilà.
Bien sûr. Alors, la littérature de jeunesse, dont je disais quelques mots en commençant l'émission, désormais a une place bien à elle et même très assurée dans le monde éditorial. Vous lancez, aux éditions Les Maupassants, cette collection. Comment vous envisagez-vous votre travail, Cécile? Quelle place voulez-vous occuper? Vous avez commencé à nous le dire tout à l'heure. Quel public visez-vous? Et quel contenu voulez-vous mettre en avant? Il ne s'agit pas de fiction, en fait, ce dont vous parlez dans ces ouvrages.
Non, alors ce sont plutôt des ouvrages documentaires, enfin biographiques, puisqu'en fait, moi, mon premier métier, enfin, j'ai été biographe donc,
Oui.
pour des particuliers. Donc, l'idée, c'était de
Oui.
raconter l'histoire de quelque chose ou de quelqu'un à la première personne pour aussi
Oui.
plus impliquer le lecteur. Donc, de faire parler le parc, de faire parler Guignol, la marionnette. Voilà. Après, le public, donc, ce sont plutôt des enfants, effectivement. Donc, il y a un choix quand même dans le vocabulaire, dans toutes les informations que je peux recueillir sur le sujet, ben, il y a un choix de ce qu'on va transmettre, puisqu'on ne peut pas tout dire, donc forcément, il faut être synthétique. On n'a qu'un certain nombre de pages, donc bon, ben, voilà, il faut essayer de déterminer un petit peu les grandes étapes importantes. Et ensuite, avec Isabelle, c'est vrai qu'on se met d'accord. Enfin, en général, elle trouve toute seule ses idées d'illustration, mais parfois, elle me dit, tiens, sur cette page, j'ai envie de mettre ça en avant, qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est vrai qu'on est, en général, toujours d'accord sur l'élément important. Vous parliez de comment fonctionnaient en regard les deux éléments, le texte et l'image. Je pense, par exemple, au parc de la Tête d'Or, où à un moment, on parle des voitures qui circulaient dans le parc pendant une époque, et de là sont nées d'ailleurs les premières plaques d'immatriculation. Et ben, c'est vrai que moi, quand je le raconte, Isabelle va illustrer avec une image de voiture d'époque et des personnes d'époque. Donc, tout de suite, on visualise aussi, ça apporte des éléments en plus.
Donc la fonction sur laquelle vous insistez, c'est davantage une fonction didactique, me semble-t-il.
Éducative.
Documentaire et, éducative.
Oui, vraiment.
Et le quiz, d'ailleurs, qui clôt vos ouvrages, correspond bien à cette visée.
Voilà, c'est ça, voir un petit peu ce qui a été retenu du texte. Ça peut être fait en plusieurs fois, on peut y revenir, voir ce qu'on a retenu. Alors, en général, c'est vraiment le quiz, il porte sur des choses très simples et qui normalement ont dû capter l'attention de l'enfant. Et voilà, donc c'est un petit plus, un petit jeu à la fin pour voir ce qui a été retenu.
Ce qui en reste.
Voilà, ce qui en reste. Ouais.
Isabelle, comment vous, quand vous illustrez, quand vous apportez votre regard, quand vous apportez vos couleurs, maintenez-vous néanmoins ce qui, pour un enfant, me semble-t-il, est important aussi, ce désir de rêver, ce désir de se construire un univers onirique?
Alors, d'abord, dans mon dessin, qui est assez rond, qui n'est pas simple, mais qui est quand même, assez rond, assez souriant, les personnages sont toujours assez souriants. Il y a aussi l'idée de la couleur, c'est très important pour moi, la couleur, c'est primordial. Et d'ailleurs, on a fait un petit salon du livre il y a pas longtemps et les enfants étaient très attirés tout de suite par les couvertures qui sont assez attrayantes, voilà. Et
il y a un code couleur d'ailleurs qu'on a mis en place.
Ces codes couleurs.
Alors en fait quand Cécile m'a parlé de ce projet de livre pour enfants. J'ai tout de suite eu des biographies, il y avait un petit côté historique, ce sont des petits condensés d'histoire pour les enfants. Et j'ai tout de suite eu la vision du dessin, donc j'ai choisi le dessin numérique. C'est pas toujours ce que je fais dans les illustrations en général. Et on a défini en fait le fait d'utiliser une couleur dominante qui parcourt le livre. Alors par exemple pour Saint-Exupéry, c'est le bleu qui domine, qui circule dans tout le livre. Pour Prévert, c'est les orangés. Pour le parc de la Tête d'Or, ce sont les verts.
La girafe.
Voilà. Et donc l'idée. Enfin bon, moi j'ai vraiment axé ça sur la couleur et puis sur la générosité des personnages. Et puis les auditeurs auront le plaisir de regarder ces livres, il y a des petits détails, des petites choses un peu rigolotes. Chez Guignol, on a un petit chien là qui vient de temps en temps visiter les personnages. Voilà.
C'est quelque chose de très optimiste, dans le fond. À une époque où nous broyons beaucoup de noir, pour utiliser cette métaphore, où le sombre, le négatif, souvent domine, votre travail, à toutes les deux, donne quelque chose de joyeux, d'optimiste, de positif, qu'il s'agisse de l'invention du cinéma, qu'il s'agisse, les Lyonnais reconnaîtront bien sûr, de Guignol, mais également ce qu'il y a de fantaisiste dans le poète Jacques Prévert, ou d'héroïque dans l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Est-ce que, Cécile, vous avez voulu, vous, en écrivant ces textes, mettre en évidence cette télon créateur des uns et des autres, qu'il s'agisse de celui qui a fondé le parc de la Tête d'Or ou le cinéma, par exemple.
Bah déjà, l'idée, je pense, c'est de dire qu'on peut apprendre de, sans que ça soit poussiéreux. Voilà, oui. C'était un peu dépoussiéré. Le fait, effectivement, de faire raconter à la première personne, ça donne aussi une proximité, même de personnifier quelque chose, un lieu comme le parc ou la Fête des Lumières, ça donne une proximité. Donc, ça les rend... l'idée, c'est que les enfants puissent se sentir proches de ce qu'on leur raconte et qu'ils ne se sentent pas mis à distance. Donc, après, c'est vrai qu'on a fait le choix aussi, au départ, d'avoir quand même des choses qui étaient locales, puisque notre éditeur, Le Mot Passant, c'est une maison d'édition qui travaille sur le régionalisme. Mm-hmm. Donc, on avait pris ce parti d'avoir toujours quand même, dans nos publications, puisqu'on s'en sortit en deux temps, à chaque fois trois ouvrages, d'avoir au moins quelque chose en lien avec le local. Et puis après, Prévert, c'était l'anniversaire de la mort de Prévert. Donc, comme Prévert est quand même très très étudié encore dans les écoles primaires, voilà, on s'est dit que c'était intéressant de le faire. Mais oui, l'idée c'était vraiment de rendre les choses accessibles et que ça soit à la fois qu'on apprenne des choses, mais que ça soit simple, que ça soit à la portée des enfants. Et puis, pourquoi pas après qu'ils aient envie d'en savoir plus en grandissant et de lire des choses plus complexes et plus adaptées à leur âge. Mais là, c'est une première approche, on va dire, des sujets en question.
C'est une des raisons pour lesquelles vous l'avez tout à l'heure évoqué. Chaque ouvrage commence pratiquement par la même phrase.
Oui, ouais.
Ainsi, par exemple, pour Antoine de Saint-Exupéry, « Mon histoire commence le 29 juin 1900, jour de ma naissance à Lyon. » Pour Jacques Prévert, mon histoire, c'est le hasard, commence le 4 février 1900, jour de ma naissance, à Neuilly-sur-Seine. Pour Guignol, eh bien, nous avons aussi ce même procédé. Mon histoire commence avec la naissance de mon inventeur, Laurent Mourguet. Je ne vais pas les reprendre tous les six, mais pour l'enfant... qu'il soit âgé de 6 ou 10 ans, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'identification par ce recours à la première personne?
C'était un peu l'objectif, oui. Après, c'était comme la collection, on l'a baptisée « Raconte-moi ton histoire ».
Ton histoire, oui.
Voilà, donc l'idée, c'était effectivement de commencer à chaque fois en disant « Mon histoire commence bien avant ou après, enfin voilà, après la naissance de mon créateur ou... » Donc c'était aussi, quand j'étais petite, il y avait « Raconte-moi la terre, raconte-moi la vie, il était une fois l'homme », enfin voilà. Donc c'était un peu dans ces idées-là, où on apprenait vraiment des choses, mais où c'était avec des personnages animés, justement, qui étaient, il était une fois l'homme, ils étaient très ronds, très souriants, et il y avait ce côté de proximité qui faisait qu'on avait envie d'apprendre, en fait, que c'est peut-être pour donner aussi le goût d'apprendre aux enfants. Si on y arrive.
Il y a un petit clin d'œil, me semble-t-il, à une collection, c'est « Raconte-moi une histoire ». Ici, c'est « Raconte-moi ton histoire ». Isabelle, est-ce que vous-même, quand vous étiez enfant, on vous a raconté des histoires et est-ce que vous vous les êtes appropriées? Si oui, par quels moyens?
Alors, je me souviens plus tellement si on m'a raconté des histoires, sûrement, mais je sais que j'ai eu beaucoup de livres et que j'adorais lire et que j'étais très marquée par les histoires, notamment où les enfants étaient les héros et évidemment ça aide à s'identifier, à rêver parce que moi j'adore rêver, j'adorais rêver, j'adore encore rêver et j'espère que les dessins font rêver. En tout cas je pense à ça quand je dessine et quand je mets en couleur mes dessins, je pense à ça, j'ai envie que ce soit pas féerique mais j'ai envie que ce soit beau et que ce soit harmonieux. J'essaye de soigner cette partie-là du travail.
Alors, la musique aussi fait rêver. Nous allons écouter quelques notes de musique de Maurice Ravel.
Thank you. Dialogue. Monserrat Vidal.
Alors, je suis en compagnie d'Isabelle Arca, je suis en compagnie de Cécile Mathias. Nous parlons de littérature de jeunesse, nous parlons d'enfants, nous parlons d'éducation, je n'ose pas dire instruction, c'est presque un gros mot aujourd'hui. Mais surtout, Isabelle, avant que nous n'écoutions l'enfant et les sortilèges, vous insistiez sur cette dimension à faire rêver, sur cette dimension onirique. Le dessin, pour vous, c'est sa fonction principale, pour ces ouvrages en tout cas.
Alors peut-être que c'est naïf, mais moi je crois beaucoup à ça, oui. Et d'ailleurs, si je dessine et si j'ai voulu faire ce métier, c'est pour rester dans une espèce de rêve un peu éveillé. C'est ma passion. Je pourrais rien faire d'autre. Et j'imagine que qu'en dessinant de cette façon-là, je peux apporter au lecteur. Cette part de rêve, je suppose, j'espère, quoi.
Le dessin ne dit pas la même chose que le texte. Il apporte une dimension en creux, me semble-t-il. C'est ce que j'ai ressenti en regardant ces ouvrages, en les feuilletant. On apprend des choses ou on se les réapproprie grâce au texte. Mais quand on regarde, par exemple, vos illustrations, qui sont pleines pages, souvent, on voit une autre lecture, une autre dimension apparaître.
Alors, pour l'enfant, lorsqu'il reçoit le texte de Cécile, il peut peut-être pas forcément, il a pas encore l'imaginaire forgé et il a peut-être besoin de petits repères historiques. Donc, par exemple, la première page de Jacques Prévert, on voit deux petits garçons qui jouent sur une rampe d'escalier dans une rue parisienne, et puis il y a leurs cartables qui sont posés à côté. C'est pas des cartables d'aujourd'hui, c'est des cartables d'époque, et ça peut apporter l'environnement, ça parle de l'environnement dans lequel les personnages évoluent, le ou les personnages évoluent. J'essaye dans la mesure du possible d'apporter quelque chose de supplémentaire qui va raconter et qui va compléter le texte de Cécile, qui est déjà très descriptif.
Oui. Voilà. Et vous, Cécile, alors vous m'avez dit tout à l'heure que le texte nécessite d'abord un travail de documentation. Comment, pour de jeunes lecteurs, fait-on pour choisir cette documentation qui doit être solide, sérieuse, et ne pas sombrer néanmoins dans le schématisme ou une vulgarisation un peu trop simpliste?
Déjà, j'essaye de faire un premier état des lieux de tout ce que je peux trouver sur le sujet, d'établir un petit peu un plan, puisque je sais que j'ai 10 pages de texte, donc de voir un petit peu comment je peux couper mon contenu en 10 parties distinctes. Et à partir de là, effectivement, une fois que j'ai établi ces 10 pages, je vais voir dans toute la masse d'informations ce qui est le plus pertinent pour le public auquel je m'adresse. Justement, par exemple, le cinéma, c'était très, très technique, parce qu'on sait quand même... l'idée, c'était de raconter les évolutions du cinéma. Le sonore, enfin le parlant, le muet, la couleur, le noir et blanc, enfin je le dis dans le sens inverse, les effets spéciaux, etc. Donc là, ça pouvait vite être très très complexe. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des choses qui soient parlantes pour des enfants. Par exemple, quand on parle des pellicules et des projectionnistes qui devaient assembler les pellicules, Isabelle a fait un dessin qui montre bien ce que c'était, parce que les générations actuelles, ça n'existe plus. Oui. Donc je pense que là, c'est quelque chose qui est très parlant d'imaginer ces pellicules. Donc il faut rester sur des choses quand même qu'on puisse s'imaginer, sans que ça soit non plus trop simpliste, comme vous dites. Oui. Mais voilà, c'est toujours un dosage Pareil, dans le choix des mots, il y a toujours un dosage entre pas être trop simpliste, ou prendre des mots trop bébés, entre guillemets, et puis pas avoir du vocabulaire trop complexe qui demanderait à être expliqué tous les trois mots. Donc, c'est toujours ce sont toujours des choix à faire.
Des choix d'équilibriste,
voilà,
en quelque sorte.
Voilà, un petit peu, ouais.
Parce que, me semble-t-il, avec ces ouvrages, mais aussi plus largement avec ce que l'on appelle la littérature jeunesse, on est face à un paradoxe. Certes, les enfants auxquels vous vous adressez, 6 ans, m'avez-vous dit tout à l'heure, commencent à lire, mais ces enfants-là sont, comment dirais-je, conduits par leurs parents. Donc, ces ouvrages de littérature jeunesse s'adressent bien sûr aux enfants, mais aussi à leurs parents. Et ils doivent plaire aux parents, puisque ce sont les parents qui vont orienter les enfants. Comment procédez-vous l'une et l'autre pour vous situer par rapport à ce lectorat assez complexe, finalement, Isabelle ?
Par l'exactitude des détails qu'on apporte. Une fois qu'on a trouvé la partie à développer dans chaque texte pour une page. Moi, je fais un long travail de recherche de documentation pour pas faire d'erreur de description. Et par exemple, pour Saint-Exupéry, il fallait dessiner le bon modèle d'avion à la bonne période pour éviter les erreurs chronologiques. Donc,
oui.
Voilà. Donc, avec cette précision des faits, à la fois par le texte et à la fois par l'image, je pense que c'est complémentaire et ça attire aussi les adultes.
Et vous, Cécile, il nous reste une minute pour nous parler justement de ce caractère paradoxal de la littérature jeunesse.
C'est vrai que je pense que effectivement, comme je disais, dans le choix du vocabulaire ou des éléments, je pense qu'il y a des parents qui vont apprendre des choses sur le parc de la Tête d'Or. Moi, je suis pourtant lyonnaise, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Par exemple, les plaques d'immatriculation qui avaient été créées à Lyon, je ne le savais pas. Donc l'idée, c'est aussi que les parents puissent découvrir des choses. Et après, je pense qu'au niveau du format aussi qu'on a choisi, qui est un petit format carré, c'est un joli objet, c'est attractif, donc c'est de pouvoir attirer l'œil. C'est vrai qu'au milieu de toutes les propositions qu'il y a, il faut sortir un peu du lot. C'est pas évident, mais...
Mais c'est réussi.
Ben merci.
Mais c'est réussi. Je conseille très vivement aux éditions du mot passant. Chacun aura reconnu, bien sûr, le jeu de mots. C'est 6 ouvrages, 6 premiers d'une série qui va certainement se construire progressivement. Le cinéma, le parc de la Tête d'Or, Guignol, la fête des Lumières, Jacques Prévert, Antoine de Saint-Exupéry, pour les petits, mais aussi pour les grands. Merci Cécile Mathias, merci Isabelle Arca. Vraiment, je les conseille et vous y trouverez, adultes et petits, beaucoup de plaisir.
Merci.
Merci à vous.